Panorama Africa.
Panorama Africa, voyageons à travers toute l'Afrique.
The great challenge of our age is...
Le plus grand défi de notre époque est de répondre à la question suivante. Vu l'interdépendance de toutes les nations dans le monde, que pouvons-nous et devons-nous faire pour s'assurer qu'il y ait partout la démocratie, la paix et la prospérité? Notre humanité commune et cette urgence qui frappe à notre porte requièrent de nous que nous fassions tout, même l'impossible. Ce sont là des mots de Nelson Rolihlahla Mandela qui, en 1994, lors de la 49e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est adressé à la tribune en tant que premier président sud-africain. Vous l'aurez compris, ami de la fréquence de la diversité, aujourd'hui, en ce 18 juillet, nous rendons hommage à Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, artisan de la réconciliation et symbole mondial de la lutte contre l'injustice. Bonjour et soyez les bienvenus à ce numéro de Panorama Africa. Durant ce temps d'antenne, vous aurez des contributions de sachants de la vie de Mandela, une émission riche en histoire et en témoignages. Restez à l'écoute pour une découverte, sinon une redécouverte de Nelson Mandela dans sa splendeur d'homme d'État, d'homme de paix, d'homme épris de justice.
Panorama Africa.
C'est avec le professeur Kwadio Guessant, professeur d'histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, que nous démarrons notre série de contributions et témoignages sur la vie de Mandela. Bonjour professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes un spécialiste de la vie de Nelson Mandela, vous connaissez son parcours politique et tout, mais aujourd'hui, nous nous intéressons à son action de paix. Pour commencer, professeur, pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené à étudier la vie et l'œuvre de cet homme?
J'ai estimé que Nelson Mandela, au-delà de sa qualité d'homme d'État, était un humaniste, un homme épris de paix, comme vous l'avez dit, et qui a posé beaucoup d'actions dans ce sens. Son idéologie de paix était extrêmement poussée, comme d'ailleurs chez nous avec notre premier président Félix Houphouët-Boigny. Et je pense qu'au cours de l'espace de l'interview, nous aurons l'occasion de décliner quelques actions dans ce sens.
Et justement, nous entrons dans le vif du sujet et nous allons parler maintenant de ce qui a constitué un pan majeur de la vie de Mandela, la lutte contre l'apartheid. Il est souvent perçu comme un homme de paix, mais il a aussi soutenu la lutte au début. Comment expliquer cette évolution?
Vous faites allusion là au changement d'option entrepris par le mouvement de l'ANC, précisément à partir de 1960, après la grande répression des forces sud-africaines contre la manifestation des Noirs qui a conduit à ce qu'on a appelé le massacre de Sharpeville, en mars 1960. Très clairement, l'ANC, le mouvement auquel il a adhéré à partir de 1946, était un mouvement non violent. Mais en dépit de toutes les actions pacifiques qui ont été menées, l'ANC s'est rendu compte que le pouvoir en place, le pouvoir ségrégationniste, ne pouvait pas entendre de cette voix. Et donc, après ce massacre, l'ANC décide avec Nelson Mandela d'opter pour, n'est-ce pas, la lutte armée en créant une branche militaire au sein de ce mouvement politique, le Umkhonto Sizwe. Toutefois, il importe de rappeler qu'en dépit de ce changement d'option, en raison de la force militaire et policière du gouvernement sud-africain, l'ANC n'a jamais pu véritablement faire aboutir cette voie-là, se contentant au début des années 80, pendant qu'il était en prison, de mener des actions de sabotage, par exemple des lignes de chemin de fer, de poser des bombes dans des centres névralgiques à Pretoria, à Johannesburg, etc. Ça s'est limité vraiment à cela.
Pour les auditeurs et auditrices qui nous captent, merci de nous suivre. Vous êtes sur Radio de la Paix. Les actions, le combat, la posture de Nelson Mandela en faveur de la paix sont au cœur de cette émission. Pour en parler, je suis en entretien avec professeur Kwadio Guessant, professeur d'histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan.
Radio de la Paix.
Professeur, quels ont été les éléments clés de la transition pacifique menée par Mandela à la fin des années 80 et au début des années 90?
Bon, il faut dire que à partir de 1985, le président Peter Botha était déjà souffrant, si bien que à la fin des années 80, il est remplacé à la tête par Frédéric de Klerk, qui avait une autre idéologie, il était ouvert aux discussions et il était décidé véritablement à mettre fin à cette politique ségrégationniste appliquée depuis 1948 par le régime blanc sud-africain. Et donc, il promet comme ça, dans un discours mémorable, de libérer les prisonniers politiques, ce qui aboutit à la libération de Nelson Mandela et des autres détenus politiques de l'ANC à partir du 11 février 1990. Alors, lorsque Nelson Mandela sort de prison, alors que tout le monde s'attendait, n'est-ce pas, à ce qu'il vienne venger la majorité noire contre la minorité blanche sud-africaine, il n'a cessé de prôner, n'est-ce pas, le dialogue, la réconciliation, estimant que l'Afrique du Sud était un pays multiracial et que chaque communauté avait sa place dans ce pays. Et c'est ainsi qu'il a pu, n'est-ce pas, mener la transition pacifique avec Frédéric de Klerk jusqu'aux premières élections multiraciales d'avril 1994 qui portent l'ANC victorieux. Et cela permet donc à son leader, Nelson Mandela, de diriger l'Afrique du Sud à partir de mai 1994, faisant ainsi de l'Afrique du Sud un pays multiracial démocratique.
Aujourd'hui, Nelson Mandela, bien qu'étant décédé, bénéficie d'une reconnaissance mondiale pour son action en faveur de la paix, une reconnaissance dont il bénéficiait déjà de son vivant, et cela lui conférait une stature internationale unique. Quel a été son impact sur les mouvements de paix dans le monde ?
Lui-même, il a été un homme de paix, un humaniste. Je vais vous donner quelques exemples précis. Lorsqu'il sort de prison en 1990, la population sud-africaine l'ovationne, etc. Et vous savez ce qu'il dit, il leur dit non, que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre combat que je suis aujourd'hui libre. Donc c'est vous-même que vous devez ovationner. C'est-à-dire qu'il s'est mis en retrait et il a mis en avant le peuple sud-africain. Vous savez qu'il a obtenu le prix Félix Houphouët-Boigny de la paix. Ensuite, il a obtenu le prix Nobel de la paix, concomitamment avec le président Frédéric de Klerk. Et ce sont des éléments assez importants qui sont venus couronner, n'est-ce pas, sa marche pacifique vers cette transition. Il a aussi participé, n'est-ce pas, à beaucoup de négociations internationales au niveau d'abord de l'Afrique australe, dans la crise, ou du moins du conflit armé, de la guerre civile en République démocratique du Congo, au Lesotho, au Burundi, et puis aussi, il a permis, n'est-ce pas, au colonel Kadhafi de la Libye de se rapprocher des Nations Unies alors que ce dernier était frappé par des sanctions à la suite des attentats contre les avions de la PANAM et du DC-10, plus précisément de Lockerbie en 1989. Donc il fait comprendre à Kadhafi que ça ne servait à rien de maintenir la tension et que les Nations Unies étaient une organisation importante et qu'il se devait d'aplanir ces dissensions. Et je pense que tous ces éléments ont prouvé que c'est un homme de paix. Mais c'est un homme aussi de justice, de droit. Alors vous savez que sa deuxième épouse, Winnie Mandela, lorsqu'il forme le premier gouvernement après la période de transition, Winnie Mandela était vice-ministre en charge de la culture. Et elle a été rattrapée par deux affaires sales. La première, c'est que pendant qu'il était en détention, son épouse avait une milice. Et cette milice, au sein de l'ANC, a commis un meurtre contre un médecin et puis un jeune noir. Mais elle a été acquittée après avoir payé une caution. Lorsqu'il la met dans le gouvernement, elle est ensuite rattrapée par une affaire de bout administratif. Il va jusqu'à se détacher d'elle et puis après, il contracte un troisième mariage avec l'ancienne femme du président mozambicain, Samora Machel. Alors dites-moi, en Afrique, quel est cet homme d'État, quel est ce chef d'État, cet homme politique de premier rang, voilà, qui ferait condamner son épouse, qui la chasserait, la libogerait du gouvernement parce qu'elle a été trempée dans des affaires sales. Et c'est pour tout ça, son humilité, sa lutte contre l'apartheid, 27 ans en prison, ce n'est pas 27 mois ni 27 jours, et tout ceci lui a accordé cette dimension internationale qu'on lui connaît, et c'est tout à fait normal qu'il reste un personnage politique et humain de premier plan pour les Africains et pour le monde entier.
Ils étaient un certain nombre de leaders du XXe siècle qui prêchaient en faveur de la paix dans le monde. En quoi la conception de la paix de Mandela diffère-t-elle de celle des autres?
Bon, c'est qu'il était d'abord auréolé de son opposition, de sa lutte contre l'apartheid. Et c'est surtout ça qui l'a fait connaître, n'est-ce pas, au plan mondial, dans tous les continents. Ça, c'est un élément important. 27 ans. Il sort, et alors que l'opinion sud-africaine et même internationale pensait qu'il mènerait une lutte de revanche contre la minorité blanche, une fois au pouvoir, il ne l'a pas fait. Il a plutôt prôné le dialogue, les relations pacifiques entre toutes les communautés qui hier étaient à couteau tiré. Et comme je l'ai dit tantôt, son engagement dans le règlement pacifique et de nombreux conflits en Afrique, etc., et son charisme, tous ces éléments lui ont accordé ce qu'on lui connaît. Alors, au sujet de son charisme, je rappelle qu'en 1997, l'Afrique du Sud, vous savez, au plan scientifique, était très très avancée. L'Afrique du Sud a détenu près de 6 bombes atomiques pendant la période de l'apartheid, et c'est en intégrant le traité de non-prolifération des armes nucléaires en 1991 que le président Frédéric de Klerk les a toutes faites détruire. Alors en 1997, lorsqu'il accède à la tête 3 ans après, il se trouve que l'Afrique du Sud, qui produisait, n'est-ce pas, des arsenaux militaires de premier ordre, notamment des missiles sol-sol à guidage laser. Et l'Afrique du Sud les a vendus, a vendu une bonne quantité à la Syrie. Et comme l'État d'Israël était opposé à la Syrie, le président Bill Clinton lui a fait des remarques désobligeantes, lui disant que « Mais pourquoi vous pouvez vendre de tels armements sophistiqués à la Syrie alors que vous savez que ce serait pour les utiliser éventuellement contre l'État d'Israël, que je soutiens, que les États-Unis soutiennent ?» Il lui a répondu ceci: « J'espère que c'est la toute dernière fois que vous faites des remarques à l'État sud-africain. J'espère que vous l'avez fait parce que vous étiez en train de rêver et que je vous rappelle que l'Afrique du Sud est un pays souverain et qu'il est libre de vendre ses arsenaux, ses produits manufacturés à qui il veut. » Voici un bel exemple de souveraineté et de détermination face à une superpuissance.
Vous êtes professeur d'université. J'ai envie de vous demander quelle place occupe Nelson Mandela dans l'enseignement de l'histoire des relations internationales, votre spécialité.
Bon, à vrai dire, ici, nous n'avons pas un module sur cette thématique, mais d'une manière générale, nous enseignons l'histoire des conflits, des crises, des conflits armés. Nous enseignons la paix, et c'est dans ce dernier aspect que nous faisons ressortir des hommes illustres qui ont lutté en faveur de la paix, à l'image, n'est-ce pas, de Nelson Mandela. Mais je pense qu'au-delà, n'est-ce pas, de sa fondation, au-delà de l'aspect intellectuel, universitaire, on devrait mieux faire pour enseigner davantage les idéaux de paix de cet homme d'État, tout comme Félix Houphouët-Boigny, et je pense que cela réglerait moins de problèmes au niveau des relations internationales qui sont plus dominées par des rapports de force. Pensez tout de suite à ce que l'État d'Israël fait en Palestine plutôt que les relations pacifiques.
Nous arrivons presque au terme de notre entretien, professeur Guessant. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes générations à propos de Nelson Mandela?
Je souhaite qu'il s'inspire, même si ce n'est pas enseigné en tant que tel, mais qu'il soit toujours guidé par des actions pacifiques, par des notions de paix, pour que vraiment la société, les sociétés nationales, les communautés et même les relations internationales soient beaucoup plus viables, soient beaucoup plus pacifiées, contrairement au rapport de force auquel nous assistons en ce moment.
Y a-t-il une citation ou un geste de Mandela qui résume, selon vous, son rapport à la paix?
Je sais par exemple qu'en 1985, alors qu'il était en prison, la deuxième prison, après Robert Asmand, le président Pik Bouta lui a proposé une libération sous condition, c'est-à-dire que s'il acceptait de renoncer à la lutte, qu'elle soit surtout violente, eh bien, le gouvernement sud-africain accepterait de le libérer de la prison. Il a dit ceci, mais un homme en prison qui n'est pas libre, comment peut-il accepter une telle offre? Et puis, de toutes les façons, si vous me libérez et que mon peuple est toujours sous le joug du régime ségrégationniste blanc, c'est qu'il n'y a pas de paix pour moi, il n'y a pas de liberté. Donc, je refuse.
Pour finir, professeur, si Mandela était encore vivant, quel combat mènerait-il aujourd'hui, à votre avis?
Bon, ce serait un combat en faveur de la démocratie, parce que vous savez que en Afrique, notre vrai problème, c'est un déficit démocratique auquel nous assistons, problème de gouvernance politique, problème de gouvernance économique et de gouvernance sociale, etc., etc. Je pense que lorsqu'il est venu, il a non seulement pacifié et normalisé ses rapports avec les pays africains et au-delà, parce que avant sa libération et avant surtout sa prise de pouvoir, eh bien, la politique extérieure sud-africaine était essentiellement dominée par la confrontation avec les États africains. Et une fois au pouvoir, eh bien, cette option a été changée et les relations se sont nettement améliorées et sont devenues pacifiques, non seulement avec l'ensemble des États africains, mais avec le reste du monde. Donc, il est au centre de la paix, il est au centre de la démocratie, de la justice, etc. En Afrique, l'Afrique du Sud est un pays fort démocratique, même s'il existe encore des cas de violence et des problèmes intercommunautaires. Vous savez qu'il a fait qu'un seul mandat et il s'est retiré du pouvoir de manière démocratique. Et depuis là, tout s'est très très bien passé pour ses successeurs.
Professeur Kwadio Gessan, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Et je rappelle pour nos auditeurs et auditrices que vous êtes professeur d'histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
C'est exact. Merci.
Merci à vous.
Ok, je vous en prie.
Radio de la paix, pour vous et avec vous.
Merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix pour la deuxième partie de Panorama Africa spécial Nelson Mandela. Nous parlons de l'action, de la posture de cet homme en faveur de la paix dans le monde et c'est l'occasion pour nous de passer à la deuxième contribution de cette émission.
Panorama Africa.
En 1990, un homme s'avance, libre après 27 années de captivité. Nelson Mandela, figure planétaire de la lutte contre l'apartheid, prend son envol vers Abidjan pour rencontrer le président Félix Houphouët-Boigny. Aux commandes de cet avion, un pilote ivoirien, témoin direct de cet épisode historique, le général Abdoulaye Koulibaly. L'actuel président du conseil d'administration, PCA d'Air Côte d'Ivoire, nous relate ce moment historique où il a transporté Madiba, l'icône mondiale de la paix, suivant cet extrait de l'émission La paix en chanson présentée par Ghislain Koulibaly.
Vous avez conduit dans l'avion Nelson Mandela.
Oui, il est transporté. Quand il est sorti de prison, il est venu rendre visite à notre président ici. Et j'ai fait le voyage avec lui pour aller à Bamako, Dakar et ensuite à Johannesburg.
Oui.
Il était étonné d'ailleurs de nous voir dans l'avion où j'étais avec. On était trois. Il y avait mon copilote, je me rappelle encore son nom, il s'appelle Ziao. Et puis le mécanicien, on a fait le voyage avec lui. Et on a eu la chance d'être à sa table même. Et alors il a demandé si on était des. Des Américains. On dit non, non, non. Il n'a pas vu notre accent là. Il dit ah oui, c'est vrai. Il a posé la question. Il dit bon, c'est vrai, on s'est battu, on a gagné, mais on a quand même fait une petite erreur. Alors la petite erreur, c'est quoi? Il dit ah, nous, on a choisi d'abord liberation before education.
Education.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour gagner, mais ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas formé des gens en même temps.
Parce qu'il
me dit, mais vous savez, le seul pilote sud-africain noir, on avait un seul qui était en formation, c'est Éthiopien.
Donc c'était vraiment une fierté pour lui de voir
les Africains noirs. On était en commun en 90-91. Hein.
Ouais.
Mais nous, on en avait... Moi, j'en avais un paquet, moi. Hein.
Ouais.
Radio de la Paix. Le 20 juin 1991, Nelson Mandela foulait le sol ivoirien. Libre, digne, humble. C'est le général Abdoulaye Koulibaly qui le transporta, dans ce vol empreint d'histoire, vers sa rencontre avec Félix Houphouët-Boigny. Ce vol, c'était plus qu'un déplacement, c'était un symbole de réconciliation, d'unité, d'une Afrique debout. Et cette mémoire, cette quête de justice pour les peuples noirs, résonne aussi dans le travail de l'écrivain Serge Billet. Dans « Le souper du Trocadéro », il remonte le fil d'un dîner officiel organisé à Paris en 1889, un souper où des hommes noirs étaient exhibés comme des objets de curiosité pendant que d'autres dînaient confortablement installés. Entre humiliation passée et espoir porté par des figures comme Mandela, Serge Billet nous interroge « Que faisons-nous aujourd'hui de cette mémoire ?» Place à un autre extrait de La Paix en chanson avec Serge Billet.
Nous allons revenir sur cette histoire, on va dire cette visite historique de Nelson Mandela en France, mais ce sera juste après cette interprétation du titre Assimo Nanga de Johnny Clegg, interprété par Almami Marco. Et il nous fera également aussi un petit medley avec Ismaël Isaac, bien évidemment, qui fait partie des artistes ivoiriens qui ont beaucoup chanté.
J'ai justement, dans le livre dont on parlera tout à l'heure, consacré un chapitre à tous ces chanteurs qui ont chanté sur Mandela. Ismaël Isaac était le premier. Et ce qui est intéressant aussi à noter, quand j'étais à l'école de journalisme de Lille en 1986, de 86 à 88, mon premier ou peut-être mon deuxième article que j'ai eu à faire en tant que pigiste, c'était sur Johnny Clegg.
Ah.
Il était absolument inconnu.
Ouais.
Et donc j'arrive dans cette salle et je vois ce monsieur qui bondit comme un guerrier zoulou. Et j'étais impressionné. J'ai été le rencontrer, il m'a donné une interview et j'ai trouvé que ce monsieur irait loin. Et effectivement, il était très loin.
Ouais. Alors, hommage à Nelson Mandela, interprété dans La Paix en chanson par Marco Almami.
Merci, bonanga, merci, bonanga, tu mandele la china, la paix conta, la paix seli conta. Merci, bonanga, merci, bonanga, tu mandele la china. La paix gonan, la paix c'est li gonan. All you see is gone and the sky is gray. Look across the land and into the bay. We come to the world. 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 Oh, the sea is gold and the sky is gray. Look across the land and into the bay. We are all in till comes the day. We cross the burning water. Asi Bonanga, Asi Bonanga, tu mandele la china, la paix gonna, la paix c'est...
La paix en chanson. La paix en chanson.
En chanson. Comme à l'écran, faut qu'on aille laisser la scie. En pernis, bien qu'on m'a tous gavé. En y'a alpha blondifana. Au Onana Ufwe, Ismaël Azako, Nelson Mandela, Ismaël Nelson Mandela, Chentigi, Alaye Chentigi, Alaye Chentigi, 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 Asaya Chentigi, Chentigi, Alaye Chentigi. Chetigi, Masaya Chetigi. Omale Kafoko Aile Selasi. Ganis Piakoko Makus Kave. Anya Alfa Blondi Fana. Onana Ufwe. Ismaël Azako, Nelson Mandela, Ismaël Nelson Mandela, Chentigi, Alaye Chentigi, 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 Masaya Chentigi, Chentigi, Alaye Chentigi, Chentigi.
Voilà. Merci. Merci à Marco Almami et Jean-Baptiste Okwa qui nous ont interprété successivement Asi Bonanga de Johnny Clegg et Chentigi de Ismaël Isaac, des chansons qui rendent hommage à Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, au cœur de votre bibliographie, Serge Billet, Le souper du Trocadéro, votre tout nouvel ouvrage, sorti en avant-première en Côte d'Ivoire, qui revient sur cette visite historique de Mandela en France. C'était un 6 juin 1990 et vous étiez pigiste à Poitiers.
Oui, et je n'ai pas pu assister à l'événement, mais je suis heureux d'avoir pu, 30 ans après, reconstituer l'événement quasiment fidèlement. Grâce aux archives de François Mitterrand,
ouais.
Qui était au centre de ce dîner, puisque le dîner était organisé par sa femme, Madame Danielle Mitterrand, et que c'est lui qui présidait ce dîner, et en tout cas qui co-présidait ce dîner avec Nelson Mandela. Et j'ai pu donc, grâce aux archives présidentielles de François Mitterrand, donc exceptionnelles, reconstituer le dîner, et puis retrouver les photos qui n'avaient jamais été publiées de ce dîner. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que de son vivant et en tout cas jusqu'à aujourd'hui en Martinique comme en Afrique on ne sait pas que Mandela et Césaire se sont rencontrés,
ouais.
et moi moi-même j'étais moi qui ai côtoyé Aimé Césaire, il n'en parlait quasiment jamais. D'autres personnes que lui ayant rencontré Mandela se seraient vantées, auraient fait des gorges chaudes, lui il n'en parlait pas, il était tellement discret et tellement humble qu'il n'en parlait pas, et donc pouvoir raconter que ces deux hommes se sont rencontrés, ce qu'ils se sont dit, c'est extraordinaire.
Ouais. Alors, ça a été vraiment beaucoup de recherches, hein, surtout que vous n'avez pas pu prendre part à cette cérémonie qui était hautement privée, beaucoup de sécurité aussi autour, et des personnes, des figures emblématiques qui prennent part à ce dîner, vous l'avez dit, Aimé Césaire, Wole Soyinka, et puis le chanteur français Renaud, on avait aussi Barbara, autant de personnalités, mais qui ne sont pas là ex nihilo.
Oui, voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé de joindre Renaud, qui est l'un des rares survivants de ce dîner. Il est malade, il n'a pas voulu me parler. Je suis passé par son frère, par son ex-femme. Ça n'a pas été possible. J'ai essayé de joindre Wole Soyinka aussi à travers un ami. Ça n'a pas été possible. Je pense qu'il a un âge où il parle très peu, ou en tout cas beaucoup moins. Et puis, pareillement, Peter Brook, tant qu'il était vivant, le metteur en scène britannique. Et puis j'ai essayé aussi de joindre, d'en parler avec Aimé Césaire, mais qui n'en parlait pas de son vivant. C'était vraiment des choses qu'il gardait de façon très secrète. En tout cas, tous les gens qui ont survécu et qui étaient encore vivants, qui sont encore vivants, j'ai essayé de leur parler, mais ils n'ont pas souhaité. Donc il a fallu que je travaille comme font tous les chercheurs, avec des archives, avec des témoignages connexes qui m'ont permis de reconstituer donc le dîner.
Oui. Des témoignages et des archives. Et cette démarche-là, comment elle s'est passée concrètement? Comment vous avez procédé justement?
De toute façon, les chercheurs ils ne trouvent pas comme ça.
Ouais.
Ils fouillent dans des bibliothèques, ils vont fouiller dans les maisons d'archives. Et puis que pour ça vous faites des fouilles pendant des années, vous ne trouvez rien. Moi je suis sur les traces de ces fouilles-là et de ces archives-là et de ces photos-là depuis quand même 2018. Hein.
C'est voilà. Ça.
Donc il m'a fallu quand même plus de 3 ans pour pouvoir aboutir. Et puis en passant par telle personne qui vous renvoie à telle personne, quelquefois vous faites une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de personnes sans résultat. Et puis un jour, voilà, quelqu'un vous dit, mais moi, je peux vous avoir l'accès aux archives de François Mitterrand. Et là, vos yeux brillent,
oui.
Et vous dites, waouh, d'accord. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Et parmi ces archives-là, on a ce discours de François Mitterrand oui, que vous avez retranscrit ici, qui commence par exemple comme ça. Nelson Mandela, ce nom sonne et résonne sur tous les continents avec la puissance irrésistible du destin. Car vous avez montré ce que peut la force fragile d'un homme. On s'arrête là.
Ah oui, et puis surtout la fin, quand il
oui.
dit...
La fin, il nous dit, telle est la force des droits de l'homme lorsque l'opinion des peuples soutient leurs défenseurs. Aujourd'hui, c'est le prisonnier qui guide ses geôliers voilà. sur les chemins de la liberté. C'est lui qui montre à ceux qui se croyaient les maîtres qu'ils étaient esclaves de leurs préjugés. Et qui leur enseigne comment on peut s'affranchir ensemble du système où fut enfermée leur patrie commune. Voilà ce que je désirais vous dire ce soir, Nelson Mandela, au nom de mon pays.
Oui, je trouve que c'était pour moi, à mon avis, l'un des plus beaux discours de François ouais. Mitterrand et qui nous a marqué, même nous qui n'y étions pas, et qui fait date.
Panorama Africa.
Nous voici au terme de Panorama Africa que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui. Cette émission spéciale Nelson Mandela a été réalisée avec la participation de Ghislain Koulibaly. Merci de rester toujours à l'écoute des programmes de Radio de la Paix et à la semaine prochaine pour Panorama des Régions.
Panorama Africa.
Panorama Africa, voyageons à travers toute l'Afrique.